bien quand même.
J'espère que ces trois livres vont fermer définitivement, même si encore une fois il y a beaucoup de choses drôles, il y a même des vedettes dedans, des gens qui ont fait des choses.
Annick, je vous interromps. Je voulais vous dire au revoir, mais je voudrais vous lire des SMS qu'on vient de recevoir pour vous. Donc, je vous dis, s'il vous plaît, restez avec nous encore quelques instants, le temps du flash, et on se reparle dans quelques instants. La Libre Antenne revient dans un instant. À tout de suite. Et chers amis, notez que Christine Kelly vous donne rendez-vous de 11h30 à 13h pour débattre en direct avec ses chroniqueurs et ses invités sur tous les sujets d'actualité. Christine Kelly et vous, c'est de 11h30 à 13h du lundi au jeudi sur Europe 1, Europe 1, la radio libre. Il est 23h, on retrouve Maëlle Laurent pour le Flash Info. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie et bonsoir à tous. Un bilan qui s'alourdit en Espagne. Au moins 10 personnes ont été tuées dans la province de Cordoue, située dans le sud du pays. C'est un train qui a déraillé avant d'entrer en collision avec un autre convoi. Certains passagers se trouvent toujours bloqués dans certains wagons. À Alès, dans le Gard, un homme tué par balle, un autre blessé ce matin près d'un point de deal. Une enquête pour meurtre et tentative en bande organisée a été ouverte. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. Un mort et plusieurs blessés dans un grave accident de la route la nuit dernière à Nanterre, près de Paris. Le jeune conducteur a pris la fuite avant d'être interpellé. Il était sous protoxyde d'azote. Du nom de ce gaz, il la rend particulièrement dangereux. Deux personnes interpellées également à Cannes après un refus d'obtempérer. C'était la nuit dernière. Une course-poursuite a eu lieu avec la BAC sur une quarantaine de kilomètres. Les deux passagers ont ensuite tenté de fuir jusqu'à se jeter dans un fleuve avant d'être appréhendés. Dans l'actualité politique, Emmanuel Macron demande l'activation d'un mécanisme de protection contre les États-Unis, un instrument jamais utilisé par l'Union européenne. Il permet notamment le blocage de certains investissements. Réaction au nouveau droit de douane de Donald Trump contre 8 pays, dont la France, opposée à l'annexion du Groenland. Le chef de l'État qui présidera demain un conseil des ministres programmé dans la journée. Objectif, choisir l'outil constitutionnel 49.3 ou ordonnance qui sera utilisé pour faire passer le budget 2026. La porte-parole du gouvernement Maud Bréjon précise qu'aucune option n'est exclue à ce stade. Et sur le contenu de ce budget, Sébastien Lecornu a écrit aujourd'hui aux chefs d'entreprise pour leur annoncer qu'ils renonçaient malheureusement à la baisse de tout impôt de production. Revendication pourtant exprimée par les entrepreneurs, mais abandonnée donc au moment des ultimes arbitrages de la loi de finances. À Paris, une marche pour la vie a eu lieu aujourd'hui. Plusieurs milliers de manifestants opposés à l'avortement et à la future loi fin de vie. L'examen de ce projet de loi reprend mardi au Sénat. Et puis autre manifestation, toujours à Paris aujourd'hui, cette fois en soutien au peuple iranien. Rassemblement dans le 16e arrondissement de la capitale qui a réuni quelque 3600 personnes selon les chiffres de la police. En Iran justement, les écoles de Téhéran et d'autres villes fermées depuis une dizaine de jours ont rouvert ce dimanche. Les universités également. Une ONG affirme par ailleurs que certains services internet ont été rétablis dans le pays. Et enfin du sport, avec cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée il y a quelques instants par le Sénégal, 1-0 après prolongation. But marqué par Pape Gueye, le milieu de terrain de Villarreal à la 95e minute de jeu. À noter que le match a dû être interrompu pendant une vingtaine de minutes après l'attribution d'un pénalty aux Marocains. Les Sénégalais ont alors commencé à quitter le terrain. 23h03 sur le terrain. Valérie, vous ne quittez ni le terrain, ni le studio. Ouais, la Libre Antenne se poursuit pour 2 heures encore.
Merci beaucoup, Maëlle Laurent. On vous retrouve à minuit pour de nouvelles informations. À tout à l'heure. Marquez des buts.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Et si vous me rejoignez maintenant sur Europe 1 dans la Libre Antenne, un grand merci de passer votre dimanche soir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé de notre standard. Vous pouvez nous laisser des SMS au 7 39 21, 75 centimes plus coût du SMS, sans oublier de nous laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez que Nicolas vous rappelle. Et puis vous pouvez nous écrire à libreantenne@ europe1.fr. Annick Pérez, je vous retrouve. On était en train,
oui, merci.
Avec plaisir. On était en train de parler de votre dernier ouvrage, Paul, l'autre rive, édité par La Route de la Soie. Et je disais que vous laissiez un très bel héritage à vos petites filles, puisque il y a une lignée de femmes comme ça qui va se poursuivre finalement. Hein, les hommes ont disparu de cette lignée. À moins que vous ayez un petit-fils, cela dit, peut-être.
Non, là, je pense que non. Je pense que ma fille veut s'arrêter là.
Alors, vous nous disiez aussi toutes les souffrances que vous aviez vécues, donc notamment votre...
C'est un peu gênant d'avoir dit ça. En plus, je viens de me rendre compte que peut-être que... pour les gens qui nous écoutent, ça fait un peu... je suis désolée.
De quoi, Annick ? J'ai pas compris.
D'avoir dit que ça avait été compliqué pour moi et tout ça, c'est compliqué pour tout le monde.
Ah oui, mais de toute façon, on respecte la souffrance de chacun. Ouais. Des vies sans souffrance, moi je veux bien que les auditeurs qui n'en ont pas vécu nous téléphonent ce soir au 01 80 20 39 21 pour en témoigner. Vous voyez ? Alors après, évidemment, on n'est pas tous servis de la même manière dans la vie. Après, on croit au karma, ouais, ou on n'y croit pas aussi. On n'a pas, ouais, tous les mêmes missions, on n'est pas tous appelés de la même manière. Mais c'est ça qui fait la richesse aussi,
voilà, hein, pense, ouais,
et nos singularités. Moi, j'avais une question, parce que vous parliez donc de la maladie de votre sœur, et c'est vrai, quand on est une petite fille et qu'on a une sœur aînée qui est malade, c'est toute la famille qui est malade. Hein. D'ailleurs, on le dit même aujourd'hui.
Oui, quand, la famille.
Voilà, c'est toute la famille, évidemment, hein, qui porte cette maladie d'une manière ou d'une autre. L'exil, évidemment, que vous avez eu en empreinte, même si vous avez dû quitter la Tunisie toute petite, n'empêche que vous êtes issue de parents déracinés.
Oui.
Est-ce que, au fil de
mais
tout...
Mais qu'ils se sont jamais plaints.
Oui, ce qui est déjà pas mal, parce qu'au moins, ils ne font pas porter, mais comme de toute façon, les enfants sont des éponges. Ouais. Et en plus, ils étaient aussi, j'imagine, très polarisés sur la maladie de votre sœur, qui a peut-être occulté ouais, ce que d'autres auraient vécu aussi comme peut-être un drame. Je pense notamment aux pieds noirs d'Algérie, hein, qui encore
oui,
aujourd'hui, peuvent
ouais,
pleurer quand ils voient une image... d'Algérie. Vous voyez, c'est...
Non, pas eux, parce qu'ils étaient vraiment... leur priorité, c'était vraiment Monique, ma sœur, c'était vraiment ça.
Voilà.
Le reste ne les intéressait pas du tout.
Voilà, c'est ça.
Enfin, être là ou là, c'était...
Peu importe, le principal, c'était qu'elle guérisse.
Qu'elle vive, voilà.
Voilà, exactement. Est-ce que vous, au fil de toutes ces années, parce qu'on voit toutes ces empreintes, hein, que tous ces événements laissent en vous... Et c'est évident. Est-ce que vous avez fait un travail thérapeutique, Annick ?
Oui, bien sûr. J'ai vu des psys, bien sûr. Mais je crois que le meilleur travail thérapeutique que j'ai pu faire, c'est la peinture, l'écriture. Et encore une fois, je veux pas monopoliser l'antenne, mais dire que un écrivain, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'écrire. Qui cherche pas à être une vedette. Et c'est ça le travail qu'on fait. C'est tout. Je connais pas d'écrivains heureux qui ont été heureux. J'ai connu des gens comme Yann Kefelet qui ont eu des Goncourt, qui ont eu ceci, cela, ça les a pas soulagés. C'est quelque chose qu'on porte en soi et on a besoin de parler à un psy, parce que moi, des fois, je suis touchée d'entendre des gens intelligents et psychologues, etc. Mais la vraie solution, elle est en soi. Et alors, il y a ça, et puis la natation. Voilà, c'est ça qui m'ont aidée beaucoup plus que les psychiatres ou les psychologues que j'ai pu voir. J'aurais aimé connaître des psychothérapeutes, je n'en ai pas eu. J'ai vu pas mal de gens, mais la vraie
thérapie,
ce qui m'a le plus aidée,
c'était l'écriture.
La vraie thérapie, hein,
c'est ce que nous disait
la peinture.
Et oui, c'est ce que nous disait Charlotte hier, 15 ans, qui a mis sur papier toute sa difficulté scolaire, ses multidis, les incompréhensions de ses parents, le décès des grands-parents. Et elle nous parlait de cette écriture thérapeutique, justement. À partir de quand, Annick, écrire sur soi n'est plus seulement raconter, mais commencer à se réparer ? À quel moment vous le sentez dans le travail d'écriture, que vous êtes en train, que d'un seul coup on bascule dans une forme de réparation de son histoire et de ses blessures?
Ma réponse, elle va être dure pour les gens qui écoutent, parce que en fait, on écrit quand on prend un coup de marteau sur la tête. Et moi, j'avais pas du tout l'intention d'être écrivain, puisque j'avais fait les beaux-arts, et j'ai jamais pensé du tout qu'un jour je serais écrivain. Et c'est à le coup de massue, quand j'ai perdu ma sœur, j'ai écrit mon premier roman. Et oui, ça répare, bien sûr, ça répare. Ça répare quand quelqu'un vous dit que vous avez raison d'écrire. Ça répare quand on dit que quelqu'un peut-être vous aime. Parce que quand on vous lit, c'est aussi une preuve d'amour d'être lu. Il y a les gens qui ne sont pas lus sont. C'est comme pour les peintres qui ne sont pas vus, ne vivent pas de leur peinture. Voilà, c'est pareil. Donc c'est être lu, il faut avoir du talent pour lire aussi. Pas n'importe qui sait lire un livre. Et on est très touché quand quelqu'un vous a lu. Voilà, ça répare les gens. Et je vous ai dit tous les écrivains, ça fait depuis maintenant longtemps que j'écris. Imaginez-vous le nombre d'écrivains que j'ai connus et vraiment des très grands écrivains, vraiment beaucoup plus grands que moi, et qui n'ont jamais réussi à se réparer. Et pourtant, leurs livres ne sont pas des choses terribles. C'est des romans pas forcément noirs, mais simplement ce besoin. C'est pas le végétariat. Il faut que les gens le comprennent. On prend pas un stylo pour devenir une vedette, quoi.
Est-ce que c'est la même musique qui vous habite quand vous tenez un pinceau et quand vous écrivez?
Quand j'écris, je suis beaucoup plus je crois que oui, les deux. Je parlais justement avec des amis vendredi. En fait, les deux, je vais à une vitesse de fou. Je n'ose même pas dire combien de temps je mets pour peindre ou écrire, tellement ça va vite.
Dites-nous, parce que maintenant, on a envie de savoir. Par exemple, Paul Lautrey, vous l'avez écrit en combien de temps? Vous avez dit, je l'ai écrit. C'est un été.
Parce que personne va l'acheter si je dis que je l'ai écrit en 3 semaines.
Ah oui. Non, mais on le voit dans la fluidité d'écriture en même temps, hein. On le voit vraiment dans la fluidité d'écriture. Et en même temps, c'est très précis. Et c'est surtout, ça se lit extrêmement facilement. On est dedans tout de suite. Limite, on a les odeurs un peu quand vous parlez de la Tunisie. Ou d'Israël, évidemment, aussi. Hein.
De la Tunisie, j'ai absolument aucun souvenir de la Tunisie. Et néanmoins, oui, les gens me disent, mais on dirait que tu as passé ta vie en Tunisie. Je dis, ma mère m'a parlé de la Tunisie. Et encore une fois, je n'écoutais pas. Et finalement, j'écoutais. Et on écoute sans écouter. On écoute. Et par contre, Israël, je connais très bien. Et ma mère repose en Israël. Et Neldo, qui était le personnage de Une nuit à Carthage, enfin, c'était extraordinaire, l'histoire d'amour,
oui.
Est aussi à Regalim, dans un kibbutz, et repose. Donc, si vous voulez, pour vous dire la vitesse, si vous me demandiez entre la peinture et l'écriture, la peinture, c'est la même furiosité. C'est un mot qui n'existe pas. C'est oui, je ne travaille plus, je ne dors plus.
C'est compulsif. C'est presque compulsif.
Ah oui, oui. Je ne mange pas, je ne bois pas, je tousse. Et j'écris, je peins très, très vite. Et les gens ne me croient pas. Ils me disent, mais t'as pas fait ce tableau en 2 jours? Si, en 2 jours. Et t'as pas fait ce livre en 3 semaines? Si, en 3 semaines. Et Jacques, mon mari, me dit, mais tu dois dire que tu as mis 6 mois. Ah oui, maintenant il dit la vérité. Il est 11h30 ou je sais pas quelle heure. C'est l'heure de la vérité. On parle vrai quand on parle à nous. C'est un beau métier que vous faites.
On peut pas
vous mentir.
En tout cas, j'espère pas. Après, les gens sont libres de dire ce qu'ils souhaitent. Et parfois, on se ment à soi-même, on ne le sait même pas. Alors, de toute façon, là aussi, on ne sait pas. C'est toujours la même chose. Finalement, on ne sait pas grand-chose. Alors, moi, je voulais vous lire le SMS de Yannick au 739-21, 75 centimes plus coût du SMS. Il écrit, Je suis Yannick, chauffeur routier, accessoirement auteur-poète, et je tenais à dire un grand merci à Yannick, car son témoignage est le plus beau, car il est le plus pur que j'ai jamais entendu.
Bah, écoutez, ça, voilà, c'est avec des mots comme ça qu'on a envie de, je sais pas, on est récompensé, quoi. C'est plus que tout, ça, ce message. Je sais pas qui est ce monsieur, je le remercie.
Il a laissé son numéro de téléphone pour vous si vous souhaitez échanger. Aussi, ouais,
bah,
je
écoutez,
vous l'ai dit.
Merci de me le laisser parce que vraiment, je suis très, très touchée de ce message. Et vraiment.
Et il rajoute au 739-21, je partage totalement ce que dit Yannick sur la thérapie et sur le fait d'écrire, que ce n'est pas la gloire, mais transmettre un partage pour que personne ne puisse se sentir aussi seul que nous, on pense l'être.
Ben oui, on pense. Mais je pense que ce n'est pas seulement les gens qui écrivent ou les artistes, je pense que beaucoup de gens se sentent seuls.
Mais de toute façon, on l'est. Parce que même si on est entouré, et je prends par exemple l'exemple de la maladie, même si on est entouré, bien sûr qu'il vaut mieux être entouré de ses proches, de sa famille quand on peut, et on l'entend souvent dans la libre antenne, hein, toute cette solitude qui pèse tellement lourd. Mais quand on annonce un diagnostic à quelqu'un, il est seul devant l'annonce du diagnostic.
Ouais, c'est pour ça que souvent les gens à qui on annonce un diagnostic, un problème, etc., ils n'ont pas besoin d'être accompagnés pour les examens, ils sont seuls dans leur tête.
Voilà, exactement. Donc, bien sûr que une main à serrer, juste le regard de quelqu'un qui nous aime, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, sur des paroles qui sont entendues. Notre vie n'a de valeur aussi que quand quelqu'un peut en témoigner. C'est la même chose, en fait, hein, ce regard à nos côtés. Mais on est quand même seul.
Oui,
avec
seul,
sa peur.
Ouais, avec sa peur, et c'est pour ça qu'on aime s'entourer de gens qui sortent la fête de chacun, qui sourient beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux aussi. Hein. J'ai l'air comme ça ce soir, un petit peu. Mais je suis aussi, j'adore rire. Et ça se voit d'ailleurs dans le livre, c'est un peu drôle par moments. J'aime aussi rire, mais je ne peux pas m'empêcher de demander toujours la même chose, la sérénité. Une fois, je sais même pas, j'ai même envie d'interviewer les gens, de leur demander, est-ce que vous savez ce que c'est, ça ressemble à quoi quand on est complètement serein.
Alors un jour, un maître m'a dit, parce que c'est souvent ce que je souhaite à nos auditeurs notamment, là c'était la période des vœux, mais en général, c'est s'endormir serein, se réveiller serein. C'est-à-dire s'endormir sans problème et se réveiller sans problème. Déjà, là c'est gagné.
Ah d'accord. Et il y a des gens à qui ça arrive ?
Ben, je l'espère. Moi j'y crois en tout cas. Et je crois que surtout que ça se travaille aussi. Mais après, on a chacun nos outils. Le mien, par exemple, les auditeurs le savent, c'est la foi. Bon, voilà, après, chacun son... Vous, par exemple, c'est sans doute la créativité. Peut-être que ça peut apporter beaucoup de sérénité.
Oui, c'est vrai, ça soulage.
Voilà.
Ça soulage, bien sûr.
Donc, chacun peut trouver, et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir la foi, la créativité, travailler l'intérieur. Il y a plein d'outils.
Mais moi, la foi, franchement, quand quelqu'un me parle de sa foi, je l'envie énormément. Parce que je doute beaucoup et j'aurais adoré avoir une vraie foi. La vraie, vous savez, la foi indestructible, la vraie foi, la croyance totale. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent être heureux, les gens qui croient vraiment, Là, ça doit être une réponse à tout.
C'est sûr que ça facilite la vie.
Et ben oui, d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens croyants étaient très, 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 très heureux.
Ben, alors là, évidemment, je ne veux pas froisser les auditeurs qui ne croient pas, mais c'est certain que la sérénité, elle est à portée de main, puisqu'on s'en remet. On s'en remet à plus grand que nous. Qu'est-ce qu'on risque? Et en plus, quand on a la foi...
Il m'arrive d'y croire. Hein. Il m'arrive de croire d'avoir la foi totale, mais c'est intermittent, c'est pas... pas tout le temps, donc parfois j'y crois, vraiment je suis sûre d'avoir quelqu'un, d'avoir ma sœur encore qui me protège, mes parents ou quelque chose comme ça, Et parfois, non, mais parce que je pense que le cerveau humain n'est pas construit pour comprendre. Donc,
surtout que croire, c'est justement croire sans voir, sans comprendre. C'est comme je fais sans comprendre pourquoi je fais.
Non, mais je crois qu'on a été construit pour ne pas comprendre. Imaginez que ça soit génial, que Dieu existe et que la mort soit géniale, tout le monde va se tuer. Si c'est l'inverse et que c'est une catastrophe, tout le monde va mourir de peur. Donc, je pense qu'on a été, notre cerveau est fait pour justement ne pas savoir.
Ouais, et surtout pour dominer la peur, donc pour expérimenter. Ouais. Et si tout est donné, on n'a rien à expérimenter, évidemment.
Voilà, donc tout est bien fait dans ce monde.
Tout est parfait, voilà. Exactement. J'ai une dernière question à vous poser, Annick Pérez. Si Tunis est une rive, ou si la Tunisie est une rive, si Paris en est une autre, et Israël en est une troisième, avec d'ailleurs un dénominateur commun qui est la Méditerranée, c'est quoi le pont que maintenant, je ne vous ai pas demandé votre âge, et je ne vous demande pas, mais bon, les auditeurs peuvent recalculer, voilà, de toute façon, l'âge, qu'est-ce que ça veut dire en plus ce serait quoi le pont que vous aimeriez traverser aujourd'hui? Qu'il soit littéraire, qu'il soit émotionnel, qu'il soit humain. Celui que vous n'avez pas encore traversé, le prochain que vous auriez envie de passer.
Ça, c'est une question... Je sais pas, mais j'ai envie c'est une réponse qui est pas très. J'ai envie d'aller en arrière. Alors c'est vrai que la nostalgie c'est bête et ça sert à rien, surtout quand. Mais j'ai envie de retrouver quelque chose que. Vous savez, Romain Gary a dit une des plus belles phrases que je connaisse. Il a dit quand on perd sa mère, on cherche partout l'amour qu'on a déjà eu.
Ouais, c'est magnifique.
Moi, je ne veux pas aller en arrière parce que je ne veux pas chercher tous les drames que j'ai déjà vécu. Je voudrais aller en arrière pour voir des choses que je n'ai pas vues. Peut-être qu'à cause des drames, j'ai raté beaucoup de choses.
Vous voulez dire en général? Parce qu'en écrivant, d'une certaine manière, vous allez en arrière.
Je vais en arrière et c'est pour ça que, d'ailleurs, ça me fait tellement de bien parce que j'ai raté des choses et je reconstruis des choses et je les reconstruis
avec l'écriture.
En mieux que ce que j'ai vécu, moi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Oui, c'est une manière de repeindre la chambre aussi. Hein. Donc, on est aussi... je repeins le paysage aussi. Oui, non, mais c'est très beau. Merci beaucoup, Annick Pérez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
Et encore merci pour l'éditeur. Merci beaucoup.
Vraiment, avec grand plaisir de vous avoir reçu. Donc, votre livre, pour les auditeurs qui veulent se le procurer, Paul, L'autre rive, édité par La Route de la Soie. Et tant qu'à faire aussi, s'il vous plaît, chers auditeurs, n'hésitez pas à lire Une nuit à Carthage. Merci beaucoup, Annick Pérez. Prenez bien soin de vous et de tous vos petits-enfants et de votre fille et de votre mari.
Oui, je n'oublie pas.
Au revoir. Au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Hey, I play it off, but I'm dreaming.
et Messi Gray ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1. Mais quelle voix!
La libre antenne d'Europe 1. Valérie Darmon accompagne vos nuits.
Bonsoir Yvonne.
Bonsoir Valérie, bonsoir les auditeurs et les auditrices, et à tous ceux qui n'osent pas appeler.
Ah, c'est gentil de penser à eux, comme ça ils vont oser, ils vont faire comme vous. Alors,
Absolument. De
quoi voulez-vous nous parler ce soir, Yvonne, dites-moi.
Alors, j'écoute votre émission tous les soirs, tous les jours.
Merci beaucoup.
Et puis, il y a des sujets qui m'interpellent. Et puis alors là, depuis quelque temps, c'est l'amour, la solitude, les gens qui font des rencontres et qui n'osent pas se dire oui, tout ça. Alors, je voulais livrer mon expérience que j'ai connue il y a quelques années. Et bien, voilà.
Eh bien, vous faites bien. Alors, vous avez quel âge, Yvonne ?
J'ai 72 ans.
72 ans. Alors, je vous écoute, parce que j'allais vous demander combien de temps a duré cette histoire d'amour. Mais on ne va pas commencer par la fin, on va vous écouter d'abord depuis le début.
Oui, mais elle a duré assez longtemps et assez courte, malheureusement. Mais bon, c'est-à-dire que j'ai une vie très trépidante, et pas toujours dans le bonheur. Jusqu'au jour où il a fallu que je me sépare de mon premier mari, puisque au départ c'était le coup de foudre, mais après est arrivé les éclairs. Donc les coups, les sauts. Bon, je suis partie. Moi, j'ai pris ma valise, mon gosse, et je suis partie. J'ai déménagé, j'ai trouvé un autre emploi dans une autre région, et puis je finis vers dans les 20h, enfin le temps de rentrer chez moi. Et à l'époque, parce que je mets toujours la radio, et là, il y a un message qui passe à « Les routiers sont sympas », à Max Meynier.
Oui, émission mythique d'une autre radio.
Et que j'adorais. J'aurais voulu être routière d'ailleurs.
Ah oui, alors ce soir c'est le soir des routiers, parce qu'on a Yannick qui est chauffeur routier qui nous a laissé un magnifique message pour Annick Pérez juste avant justement. Alors on leur fait un petit coucou aux routiers ce soir qui nous écoutent sur la route.
Ah oui, absolument. Et donc j'entends ce message avec une voix formidable, enfin qui m'a interpellée, un monsieur qui cherchait des médicaments et surtout des brouettes, des pelles, etc. C'était pour faire une piste d'atterrissage au Tchad, puisque le conflit au Tchad en 80-81 était terminé. Donc il était journaliste, mais en freelance, c'est-à-dire qu'il envoyait ses reportages à qui voulait bien de lui acheter, etc. Moi, travaillant dans une clinique dont mon directeur était arrivé en France en bout de pipel, je dis, celui-là, il peut peut-être m'aider.
Ouais.
Donc je vais le lendemain matin, je lui raconte tout ça. Et il me dit, on va faire en sorte de trouver ce qu'il faut.
Une collecte.
Voilà. Mmh. Alors il s'est débrouillé comme un chef et il m'a récupéré les brouettes, les pelles. Donc voilà. Donc je rappelle la radio. Je dis voilà, est-ce que vous pouvez me mettre en appel avec Monsieur Machin? Parce que il me rappelle très content et il vient quelques jours après à la maison. Donc voilà. J'étais pas fraîche quand même, parce que j'étais toute seule avec ma fille. Et recevoir quelqu'un, j'étais quand même sur mes gardes. Surtout qu'il avait une voix, franchement, de petit truand. Bon, on passe une soirée. Ce jour-là, j'avais fait un couscous. Et puis, tout d'un coup, je lui dis comme ça, « Putain, j'ai dit, vous n'aurez pas de riz plus tard. » « Ah oui, ah bon, et pourquoi ?» J'ai dit, vous n'êtes pas gracieuse. Puis c'est parti comme ça.
Oui.
Et lui, il avait déjà son passeport et tout pour le Tchad. Bon, moi, je fais faire le mien parce qu'on devait partir ensemble. Donc, voilà. Et nous voilà partis livrer nos brouettes, faire ce qu'on avait à faire. Et puis on revient et on rentame. Du coup, j'étais prise dans le jeu et on rentame une autre péripétie, quoi. Et puis tout d'un coup, j'ai dit non, moi je peux pas, j'ai ma fille. Et puis moi, non, j'avais pas envie de mettre le couvert là-dessus. Je voulais de la stabilité, bon. Et tout d'un coup, il me dit, tu sais, je t'aime. Oh pétard. Ah, j'ai dit non, pas moi.
Si vite. Ça faisait pas longtemps que vous vous connaissiez là.
Ah ben non, enfin ça faisait déjà après quelques mois, le temps qu'on aille au Tchad et qu'on avait fait nos... Bon, on était resté pas mal de temps hein, au Tchad, hein, le... Comment dire, bah, le livrer, refaire... Comment dire, préparer d'autres livraisons, enfin, ça fait 2-3 mois, quoi.
Ah oui, quand même. Et vous, vous avez pris un congé sans solde pendant ce temps-là, Yvonne?
Ah oui, complètement.
Ah oui, vous étiez partie dans l'aventure début à la fin, oui.
Ah ben oui. Oui, comme j'ai fait le Dakar et tout, pareil.
Ah oui, vous avez fait le Dakar. Ah, vous avez fait le Dakar avant ou après?
Avant, mais moi, j'étais copilote. Hein. Et puis, c'était à l'époque où c'était... c'était nous qui payions nos assurances et tout. C'est pas comme maintenant où, bon, on était en autodidacte, hein. Tout était à nos frais, hein. On revenait tout à nos frais, malades, jambes cassées, tout était à nos frais, hein. Donc, mais bon, on m'invitait. Alors, je me suis laissée aller.
Mais le Dakar, c'était un rêve pour vous? Parce qu'à l'époque, une femme qui fait le Dakar, c'était non,
ah, mais
c'était
moi,
rare.
C'était rare. Bon, moi, j'étais un peu garçon manqué, hein. Toute coquette, mais garçon manqué quand même, hein. D'ailleurs, j'ai le chef qui est tatoué sur mon bras. Enfin bref, ça c'était encore une grande aventure ce jour-là. Et oui, c'était quelque chose. Hein. C'était une occasion. Donc hop, je suis partie.
Oui, d'accord.
Je suis partie au Cameroun.
Donc, c'est ça. Ah, ouais. Donc le Tchad pour vous c'était facile, bon, quoi. C'est une nouvelle aventure qui s'offrait à vous. On ne réfléchit pas, on y va. Oui,
voilà. Et puis, avec la profession que j'avais, c'était un peu plus facile quand même. Donc, voilà. Et puis, bon, il me déclare, il me dit, je t'aime. Ah, je dis, non, moi, je t'aime pas, moi. Non. Ça, c'est fait, c'est dit. Et puis, bon, moi, j'avais quitté un mari qui m'avait battue. J'avais une enfance où j'étais battue. Enfin, moi, quand j'étais Jean Valjean, moi, c'était terminé, hein. Donc, bon. Et puis là, il me sort. Oui, mais tu sais, l'amour, ça se construit. Alors moi, c'est vrai que les mots comme ça, ça me touche plus qu'un billet de banque ou qu'un bouquet de fleurs. Comme, ouais. Ça m'a, franchement, j'ai dit après tout, il n'est pas antipathique, il est pas mal, il est gentil. Enfin, je lui ai trouvé plein de qualités déjà.
Ouais.
Mais je ne voulais pas voler mes ailes. Enfin, bref.
Donc là, le fait qu'il puisse valider en vous le fait qu'on peut aller doucement, on peut y aller à ton rythme, on peut y aller tranquillement, et ça va pouvoir se construire peut-être, ça vous a rassuré finalement?
Absolument. Mais c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, j'étais une sauvageonne, c'est-à-dire étant élevée dans des choses difficiles, dans l'autorité, enfin l'injustice, donc bah, les fugues, les cibles, la bagarre. Moi, je ne voulais plus que quelqu'un ait d'emprise sur moi et qu'on décide pour moi. Que c'était rédhibitoire. Hein.
Mmh. Ben oui, bien sûr. Ben oui, quand même.
Vous aviez quel âge
à ce moment-là, Yvonne?
30 ans.
D'accord.
30 ans, 33 ans. Je suis née en 53 et c'était en 81. Mmh. Donc voilà. Moi, je ne suis pas douée en maths, juste pour compter mes sous.
c'est bien, ça suffit en fait.
Alors d'aujourd'hui, on fait sans envie de compter. Hein. Mmh. Et puis voilà qu'on repart, on fait le désert du Namibie, enfin bref. Puis là, j'avais ma petite quand même avec moi. Alors c'était un peu... Il fallait protéger, il fallait... Bon, enfin bref. Et puis, à un moment donné, il fallait de la stabilité pour l'école et tout. Et puis, ben voilà. Et ça a duré, ça a duré 25 ans.
Ah ben, il avait raison de vous dire que ça allait se construire, hein.
Voilà, 25 ans, mais quand j'étais heureuse. Mais là, c'était 25 ans de bonheur.
Ah ben, ça, c'est un grand cadeau que vous nous faites ce soir, parce que vous donnez de l'espoir.
Donc voilà,
d'abord, on peut être heureux sur le long terme. J'ai échangé cette semaine avec une auditrice qui disait oui, mais c'est parce que au bout d'un certain temps, avec la durée. Mais non, en fait, non. La durée n'a rien à voir dans l'histoire. Ça peut être encore plus grand l'amour qu'on se porte au bout de 25 ans.
Tout à fait vrai. Et en plus, ce qui était formidable, c'était quelque chose de discret parce que il était mon pote. Je parle comme érotique. Il était d'une, comment dire. Il avait un respect des femmes, mais par exemple, bon, moi j'ai piqué une colère un jour parce que bon, c'était le premier micro-ondes, on était en Martinique et tout, et là il me dit, je dis non, je veux pas moi ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc? Puis il me dit, c'est pas parce que tu es une femme que tu dois être coincée dans ta cuisine.
Ah oui.
Un peu avant-gardiste,
hein, ce monsieur.
Ah, c'était... Pourtant, c'était un baroudeur. Hein. C'était quelqu'un... C'était le style de Charles Bronson, vous voyez, un peu le type.
Ah hein. Oui, oh, ben, ça va, en plus.
Hein? Voilà, c'est-à-dire 1m80, 90 kilos, et moi, je l'appelais petit homme. Petit homme, s'il te plaît. Non, mais vous voyez, mais ça a duré. Je faisais pas ce que je voulais, non. Mais quand je lui demandais tout le temps, et puis moi j'avais l'éducation, l'ancienne éducation quand même, vous savez, à la DAS et tout, les femmes à la cuisine, à la couture, enfin, j'étais imprégnée de ça quand même, hein. Chez les bonnes sœurs, tout ça, j'étais imprégnée de ça. Donc j'avais quand même un respect. Mais lui, par exemple, moi j'adorais la moto. Et ben, la première chose qu'il a faite quand on est arrivé en Martinique, et la mer, donc acheter un bateau, pas qu'on avait les moyens, mais bon, voilà, il y avait quelques sous, il m'a acheté ma moto. Il n'était pas du tout motard. Du tout, du tout, du tout. Et c'était ça, ça me faisait plaisir, c'était le truc. Et il était comme ça. C'était quelqu'un de...
Mais Yvonne, vous n'avez pas eu le coup de foudre, on l'a bien compris, hein, puisque vous avez dit, mais moi je t'aime pas. Mais en revanche, lui, il a eu le coup de foudre.
Alors lui, c'est quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est ses voyages? Est-ce que c'est trop de choses? Lui, bon, les gens que j'ai rencontrés, que ce soit des femmes et pas mal d'hommes, ce qui les interpelle, c'est mon humour.
Ah bah oui, et ça lui, s'entend ce soir. Ça s'entend, on l'entend, voilà. Oui.
C'est, ce qu'il m'a dit, c'est ça. Mais je lui ai dit, pourquoi tu m'aimes? Je suis pas grand-chose, tu sais. Je lui avais dit, je suis une femme en nuit, tu sais, puis je suis rebelle. Enfin, je lui avais vraiment décrit ce que j'étais réellement. Et il m'a dit, mais ça fait rien, ça. Moi, c'est ton humour. Que tu aies de l'humour, enfin comme là, je sais pas, à Nicolas, il me dit, j'avais téléphoné à Valérie pour lui expliquer une erreur médicale et j'ai failli finir en 4x4. Mais moi, je préfère finir en deux pattes, moi. En 4x4, c'est le fauteuil roulant.
Ben oui, c'est sûr.
Bon, c'est des trucs comme ça, donc et puis je me contrôle pas, quoi.
C'est naturel chez vous. C'est naturel. Mais vous pensez que l'humour, moi j'ai un peu la réponse, hein, mais c'est pas donné à tout le monde en même temps. Est-ce que c'est ça, c'est un des secrets du couple durable?
Je sais pas, parce que peut-être que dans l'humour, on n'aggrave pas, sans le montrer, sans que les gens le comprennent, on a du positif. Je vais vous raconter une anecdote. On revient d'un voyage, et puis on n'avait pas payé parce qu'on avait acheté un appartement, je ne sais plus quoi, enfin, c'est un appartement, et puis on n'avait pas payé je ne sais quoi. Et puis quand on arrive de voyage, on voyage léger, hein, voilà pas qu'on a un huissier qui arrive un soir à la maison, puis à l'heure de dîner en plus, je l'ai invité à manger. J'ai dit, vous voulez saisir le couteau droit, le couteau de la gauche, enfin je ne sais quoi, ben, ça sera des nouilles. Puis j'ai dit, c'est facile à enfiler parce que c'est des coquillettes. Enfin, je me rappellerai toute ma vie. Et lui, il était... Ben alors, pour lui décrocher un sourire, je vous dis, il n'avait pas de ride. Et c'était ça, c'était continuellement... Et le gars, il s'est levé, il dit... vous avez quelque chose à saisir? Il y a quelque chose qui... Enfin, voilà. Le gars, il a dit, oh non, il n'y a rien à saisir. On verra ça plus tard, passez à mon cabinet.
Et finalement, ça s'est réglé comme ça?
Mais ça s'est réglé en 5-7. Il n'y a pas eu de... C'était pas pour frauder ni rien. Mais bon, quand on est en voyage, les factures, ils nous suivent pas, hein, dans certains pays. Hein. Même à d'autres chameaux, hein, ça va pas. Hein.
Donc, à quel moment, Yvonne, vous avez su que vous commenciez à l'aimer?
Eh bien, je crois que je l'ai toujours su, en fait. Parce qu'il me plaisait, ce gars-là. Ce gars-là, il me plaisait. J'étais pas insensible aux hommes. Je ne voulais plus vivre avec eux. Je ne voulais plus qu'ils vivent chez moi. Donc, mais j'étais pas insensible. Mais il y avait cette barrière parce que je m'étais dit, si je suis faible, ben je vais me sentir piégée et j'aurai plus de liberté.
Et je vais souffrir. Vous aviez peur de souffrir, en fait.
Absolument. Et puis, non seulement souffrir des coups, parce que ça aurait pas duré, parce que j'étais une rebelle et je rendais des coups. Et puis une seule fois, ça a suffi. Hein. C'était du style, quand mon ex est rentré à la maison, c'est « Léon, reviens, il y a les mêmes à la maison !» Hein, c'était le style. Mais quand il est rentré, il n'avait plus de gosse, il n'avait plus de femme, il n'avait plus rien. Donc, une seule gifle, il n'y en a pas eu deux.
Oui, il y avait quand même une capacité de rebond chez vous très forte aussi. Hein. Mais ça, c'est peut-être les années à la DAS, comme vous le veniez de nous le dire. Hein,
ah ben
c'est
oui,
ça.
Oui,
vous étiez endurci. Ouais.
Ah oui, parce que ce que bon, que beaucoup de gens de mon âge et beaucoup de gens qui ont vécu ont souffert, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas du passé parce qu'on peut pas. Hein. Malheureusement, ce qui nous rend fragiles, arrivé à un certain âge, c'est quand le passé vous dépasse.
Oui.
Et là, ça fait mal. Alors on essaye d'évacuer ça, mais je crois que ça a pas matché le premier jour parce que j'ai eu peur. Mais dans le voir faire ce qu'il faisait dans l'aide humanitaire, sa façon d'être, d'une douceur, parce que j'ai eu un enfant avec lui, d'une douceur, d'une patience. Ça a été, quand on a failli perdre notre fille parce qu'elle était asthmatique et un médecin, on n'aurait pas dû la vacciner et tout, qu'on est resté 72 heures peau à peau, que personne n'est venu en aide, ni rien. Quand il est resté dans le requin, c'est des images qu'on ne peut pas oublier. Même s'il y a un croche, on revient à ça. On revient à cette douceur. Enfin, moi, ça a été ça.
Parce qu'il vous a habitué à la douceur, parce qu'il était comme ça naturellement. Il n'a été que doux avec vous.
Ah oui. Il a jamais brusqué, il a jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. D'ailleurs, je vais vous dire, quand les gens se plaignaient, des fois, alors il écoutait, il venait voir mon mari. Il me disait, voilà, monsieur machin, je peux vous parler de votre femme? Parce que moi, je faisais de mon côté aussi, mais il y en a, c'était pas. Puis je rentrais quand je trouvais que c'était de l'injustice, voilà. Et puis il avait une manière, c'était de taper ses doigts en haut, sur le haut de la poitrine. Et puis il avait un sourire, il faisait. Puis quand les gens avaient fini, je me rappellerai tout le temps, avec sa grosse voix, il dit vous avez dû l'emmerder. Je m'excuse d'être grossière. Voilà. Mais jamais, jamais. Par exemple, j'avais pas de voiture. Ben, il mettait un mot sur la, parce que je lui prenais la sienne. Il avait mis un mot sur descends, j'ai besoin, viens voir. Puis j'avais ma voiture. Alors que j'avais rien demandé. J'ai utilisé la sienne.
Mais il était attentif à tout, en fait.
Voilà, hein,
c'est ça. Le secret, c'est aussi l'attention. C'est le rire. Le rire et l'autodérision, vous l'avez dit, et l'attention à l'autre.
Et une attention silencieuse. Oui. Je vais vous raconter une anecdote, encore une autre. Il y en a des tas. J'ai un poster chez moi. Quand on est rentré, on a vécu dans un endroit, c'était un logement social. Parce que quand on était rentré, on avait été en mer et tout, on n'avait plus de port d'attache ni rien, enfin bref. Et puis, on avait dépensé pas mal. Quand on est revenu, recommencer tout à zéro, parce que là, c'était la stabilité. Et il m'avait trouvé un poster, des yeux de femme, magnifiques, avec des aigrettes, et puis les yeux qui regardent au loin, et... derrière, alors j'ai l'impression que moi je suis derrière les carreaux et qui regarde parce qu'on vivait dans une tour, ça n'a pas duré longtemps mais on vivait dans une tour. C'est parce qu'il a fait quelques mois après, il a acheté un terrain avec une rivière voilà.
Oui. Et vous avez vécu sur le terrain avec la rivière pour avoir un horizon.
Oui, bah pendant les vacances, parce que c'était pas loin de chez nous, ni rien, donc près de la mer, enfin, etc., etc. Voilà le style. Mais je me sentais pas observée, ni rien. Mais 25 ans, je peux vous dire que ça passait vite. Et puis un jour, j'ai appris que j'étais malade. Et j'avais encore ma fille à élever, et il a fallu que j'attende jusqu'à 18 ans. Et là, on m'a dit que je m'en sortirais pas. Ok, pas de problème, je vais faire le nécessaire, mais je ne voulais qu'on touche à rien. Je veux pas de traitement, je veux rien, 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 rien.
Et vous étiez avec lui à ce moment-là, toujours.
Oui,
hein,
Oui.
Vous étiez mariée?
Oui, ah oui, oui, parce que pour partir dans des pays comme ça, déjà une, on est obligé d'être mariée, et lui, il voulait que ça soit...
officiel.
Et on avait tout prévu, voilà, que ça soit officiel.
Donc vous aviez les deux enfants?
Voilà.
Hein, voilà, d'accord.
Absolument, oui. Et à 13 ans d'écart, parce qu'elles ont 13 ans d'écart toutes les deux. Et puis...
Donc là, votre diagnostic vital est engagé, et vous ne voulez pas suivre de traitement.
Ah, pas du tout.
Et là, vous avez quel âge à ce moment-là, Yvonne?
Je devais avoir, alors les dates, ça devait être avant 2001, 96, 95, parce que j'étais opérée de la thyroïde, enfin dans les 79, 80, enfin... Bah, ma fille est née en 83, ma dernière, et elle avait, elle était en, comment dire, en sixième. Donc ça donne les dates. Et arrivée là, à 18 ans, je fais une DS, parce que je voulais partir tranquille, mais c'était moi qui décidais. Donc, voilà. Et je suis restée 7 jours dans le coma. Mon mari n'a rien compris du tout parce que j'étais partie de la maison. J'ai dit comme ça, ben voilà. Il pensera que j'ai un accident.
Vous n'avez rien expliqué. Vous partez de la maison. Voilà. Après toutes ces années d'amour,
vous
décidez-vous de partir, de tourner les talons sans un mot d'explication, sans rien. C'était trop dur pour vous à ce moment-là, Yvonne ?
C'était que moi, voilà, parce que comme j'ai eu deux chagrins. Le premier chagrin, c'est quand on m'a enlevé de chez ma nourrice qui m'a élevée pendant 8 ans et qui, je croyais que c'était ma maman. Et que la DAS venait me rechercher. Donc, et on m'a dit, ben non, je ne suis pas ta mère, enfin, etc. C'est très compliqué à ce moment-là. On n'est pas.
Oui.
Voilà. Et là, on m'a arrachée. M'a attachée dans la deux chevaux, machin, enfin bref, on va éviter...
Quel traumatisme,
Ah oui, on m'a mis en tricot, là, et on m'a fait mes vaccins. Après, je me suis retrouvée dans un 15 mètres carrés, enfin que j'ai su après que c'était un 15 mètres carrés, et on était à 8 là-dedans, pas d'eau, pas de toilette, pas de rien, enfin bref. Et puis les coups ont commencé à pleuvoir, parce que je n'avais jamais été battue chez ma nourrice, et ça a été vraiment, ça a été...
Pourquoi on vous enlevait de chez votre nourrice?
Parce que ma mère avait décidé de nous reprendre. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous intéresser, Valérie, parce que je vous écoute souvent. Et à ce moment-là, on nous enlevait, et les parents, les nourriciers, ils n'avaient pas le droit de savoir où on allait, et ils n'avaient pas le droit à l'adresse, et nous, vice-versa, on n'avait pas le droit non plus. Ils n'avaient pas le droit de s'attacher à nous. Et donc, un jour, je fais un rêve, et je vois mon père nourricier décédé dans la porcherie. Voilà.
Oui.
Et puis et j'ai le paysage et j'ai le nom de la nourrice et le nom du département.
Donc oui, précis, enfin, c'est très précis.
Voilà, un rêve incroyable. Je raconte ça à mon mari. Il me dit t'inquiète pas chérie, on ira un jour. Voilà. OK, et puis un jour il me dit écoute, si tu veux, on va. Et on a été, c'était dans l'Allier. À Bransac, vous voyez, et la famille, voilà, et le curé, là, le bas de... Parce que c'était la petite maison dans la prairie, là-haut. Hein. C'était vraiment... D'ailleurs, les coureurs professionnels, ils connaissent bien la côte de Bransac. Hein. Et comment dire, on s'arrête et on demande à l'église, voilà, la famille, machin, et j'ai retrouvé ma nourrice, comme ça.
Par le rêve.
Par le rêve.
Par le rêve prémonitoire.
Voilà. Exactement, mon père nourricier était décédé dans la
porcherie.
Il a eu une crise cardiaque.
C'est incroyable.
Voilà.
Comme quoi, on en parlait avec Annick Pérez juste avant, mais il se passe quand même des choses entre le haut et le bas qui sont quand même incroyables.
Alors moi, je vais vous dire, pour les auditeurs, les auditrices, pour les gens qui écoutent, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils croient ce qu'ils veulent. Ça n'a pas d'importance. Mais moi, je vais vous dire, moi, ce que j'ai vécu, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu tout ça, mais quand on dit l'enfance, la maltraitance enfantine à l'époque où c'était, on se trouvait dans des endroits de non-droit, je peux vous dire, et il y a d'autres gens qui pourront témoigner, ça existait. C'est pas du rêve, c'est pas des mensonges, et je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je suis comme je suis, je crois pas spécialement à Dieu. Mais je crois à quelque chose. C'est impossible. J'étais SDF, j'ai vécu dans les bois. J'étais comme une abeille, en définitive. J'ai toujours rencontré quelqu'un sur mon chemin.
Pour vous aider.
Qui m'aidait, qui me donnait un conseil. J'ai même, que je remercie, mais d'ailleurs j'ai commencé à faire un livre et tout, que je remercie avec grande chaleur, je ne sais pas comment dire, des prostituées qui m'ont donné à manger, qui m'ont caché. Donc, voilà. Et je me dis que c'est forcé qu'il y ait quelqu'un, quelque chose. C'est impossible de traverser. J'en ai parlé à mes enfants il n'y a pas longtemps, d'arriver où j'en suis. Bon, je suis pas en 4x4, mais bon, je suis pas en Ferrari non plus.
Donc, alors, revenez justement à cette tentative de suicide que vous vouliez faire.
Voilà.
Parce qu'on vous dit que, de toute façon, c'est fini pour vous, puisqu'on ne peut pas vous guérir. Oui.
Voilà. Et puis, bon, et je suis toujours là. Et à mon mari, on avait dit bien avant, on a dit OK, mais si on doit se séparer un jour, on le fera proprement. Il n'y aura pas de...
Dispute. Et puis, oui,
voilà, il n'y aura pas de dispute. D'ailleurs, on en a eu rarement. Et puis, et moi, je ne voulais pas. Je préférais qu'il me déteste. Parce que ça me réconfortait, moi, si au moins il me déteste, qu'il ait du chagrin quand je serai partie. Donc, là, ça s'est fait. Et il me dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, je suis fatiguée, je suis au bout du bout. Puis tu sais, la thyroïde, ça détraque tout et tout, parce que j'ai plus de thyroïde. Donc le médecin lui avait dit ça aussi. Puis ça s'est passé comme ça. Et puis, j'allais en recommencer une autre. Je lui dis, tu sais, il faut qu'on se sépare parce que je n'assume plus. Je n'assume plus cette vie à deux. Voilà. Et il s'est trouvé un appartement. J'ai gardé le mien. Il m'a laissé le mien et tout. Et puis, on se voyait. On se voyait régulièrement. Et puis, quelques temps avant qu'il décède, je lui avais dit, tu sais, je suis malade. Et je ne veux pas que tu souffres comme moi j'ai souffert.
Vous le protégez, en fait. Vous ne l'avez pas désaimé. Vous ne l'avez pas désaimé, jamais. Vous l'avez protégé, en fait.
Absolument. Parce que moi, étant passée par cette souffrance de cœur, c'est ce que j'ai dit à Nicolas. J'ai dit, on peut peut-être soigner la souffrance de la tête, la dépression, les idées noires, parce qu'on nous camisole de médicaments et avec des médicaments. Mais la souffrance du cœur, il reste toujours réveillé.
Ah oui, bah ça, celui qui va trouver la pilule magique contre le chagrin d'amour, par exemple, ou contre le cœur brisé, ça c'est sûr que,
pas.
Voilà, ça c'est certain. On serait tous preneurs.
On se noie dans le boulot, on se noie dans des trucs, alors que moi j'ai jamais bu, j'ai jamais pris d'alcool, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais fait tout ça. Je me suis noyée dans le boulot, dans mes enfants, de l'aide pour les autres, parce que j'ai beaucoup aidé, j'aide encore beaucoup de gens. Mais le chagrin d'amour, le chagrin du cœur, c'est quelque chose qui saigne tout le temps, hein. Et j'ai trop souffert de ça. Et j'ai dit, je ne veux pas que les autres souffrent de ça. Mais moi, j'ai aimé mes enfants. Et je les ai rendus dépendants de moi.
Ils le sont aujourd'hui, Yvonne ?
Oui, je crois. Parce qu'ils disent toujours, tu es notre référent, tu es notre pilier. Voilà.
Et ils sont présents, ils sont présents au quotidien ? Elles sont présentes, ce sont des filles d'ailleurs.
Oui. Hein ?
Elles sont présentes au quotidien.
Et un garçon que j'ai adopté.
Ah oui.
Et ils sont présents, mais j'ai beau leur dire, j'ai besoin de rien parce qu'en ce moment je ne conduis pas, je suis pas valide parce que à cause du dos là, on m'a mis une belle brochette et là je me fais opérer de la hanche là dans quelques jours. Et voilà, donc mais ils sont là, c'est tous les jours, deux fois par jour, j'ai un coup de fil, mon fils, il vient me voir tous les jours, mon petit-fils.
Magnifique.
Le fils de ma deuxième fille, il est là tous les vendredis avec moi.
C'est magnifique.
C'est vraiment, et puis on partage des passions. Ils sont, bon, les deux, mon petit-fils, mon fils que j'ai adopté, il est motard. Enfin, ils sont devenus motards. Voilà. Mon autre fille, voilà, elle court. Ben, elle fait pas mal de choses aussi. Elle est moins présente parce qu'elle est rarement ici dans la région. Donc, et ma petite-fille, c'est pareil parce qu'elles sont avocates toutes les deux. Donc, elles ont, voilà.
Et vous êtes dans quelle région? Vous êtes dans quelle région?
Moi, je suis en Bretagne, moi.
En Bretagne. Bretagne Nord, Bretagne Sud, Pointe Finistère, vous êtes où?
Attends, moi je suis dans le Nord, moi.
D'accord.
Et voilà. Et puis du coup, et on est resté comme. Et je le lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, tu sais, je ne veux pas que tu aies ce chagrin-là. Mais il me dit, je pourrais m'en sortir. Je lui ai dit, non, je veux que tu t'habitues à vivre tout seul. Je ne veux pas que tu restes dans nos affaires et tout. Il faut que tu t'appropries ta vie, tes affaires. Et voilà comment ça s'est passé.
Ouais, mais ça, c'est un magnifique, une preuve d'amour magnifique aussi. C'est
oui.
Un geste d'amour extraordinaire, là, que vous faites.
Ah, mais bien sûr, je pense, oui. Et il l'a compris. Il l'a compris et il me dit, tu sais, je le voyais bien. T'étais plus comme avant. Donc, j'ai dit non, c'est... Alors, mais on se voyait. On se voyait régulièrement. Hein. Mais on était devenus copains. On était devenus copains, copines. Il me montrait ses trucs, ses reportages qu'il faisait en freelance, enfin tout ça.
Mais il n'a pas, pas refait sa vie après, lui.
Non,
c'est impossible.
Du tout. Voilà. Du tout, du tout, du
et,
tout,
et,
du tout.
Et combien de temps vous êtes resté comme ça, meilleur copain, tout en vous aimant de toutes les manières et en vivant séparés, tout en vous voyant?
De 2001 à 2012.
Ah oui, quand même. Hein.
Oui.
Et à aucun moment, parce que le temps a passé, les médecins se sont donc trompés, hein, à la grâce de Dieu, puisque vous êtes là. Vous ne vous, vous êtes pas dit, bon, bah, finalement, je suis toujours là, ça va bien, je vais peut-être retourner avec lui?
Non. Non, parce que la maladie, elle, elle est là. Elle est lente. Elle est gentille. Elle est lente. Elle est lente, elle ne me fait pas trop souffrir, donc elle est sympa. D'ailleurs, quand je suis des moments de fatigue, je lui dis « Bon, écoute, t'es sympa, je ne voudrais pas tomber dans les pommes, hein, j'ai une petite course à faire, je voudrais revenir. » C'est comme ça que je fais.
Et vous rentrez, et vous revenez.
Je rentre.
Ouais, c'est ça. Vous, non, vous activez votre pouvoir auto-guérisseur.
Voilà, c'est... je la gronde, enfin bref, je suis un peu spéciale, hein, comme, et puis que je ne veux pas, mes enfants là dernièrement m'ont vu énormément souffrir, ils ne m'avaient jamais vu comme ça, j'ai hurlé parce que quand mon dos s'est cassé et que les médecins ont dit non, non, c'est rien, il n'y a rien, non, j'avais le bassin cassé, une vertèbre de cassé et le genou cassé, mais oui. À part ça, et là quand je les ai appelés, parce que je ne les ai jamais appelés, et parce que je n'ai jamais besoin de rien, et quand je les ai appelés, là, ils ont souffert pendant 72 heures. Les pauvres, ils s'en rappellent encore.
Il y a Patrick qui nous demande au 739-21 de quelle pathologie vous souffrez, Yvonne.
J'ai du mal à le dire.
Alors ne nous dites pas.
C'est la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle.
Voilà. Ne nous dites pas. Ne la faites pas exister. Ne la nommez pas. C'est très bien.
Non, mais j'arrive pas.
Ne la nommez pas.
Voilà, c'est...
Voilà, on aura compris.
Mais à côté de ça,
façon.
Il y en a des tas. Hein. J'ai de l'arthrose, l'ostéoporose, je casse. Comme dit mon petit-fils, mamie, t'as pas de chance, t'es en kit. Hein.
Voilà, il a hérité de votre humour. Hein.
Ah oui, complètement. Complètement. Et oui.
Et pour en revenir donc à votre compagnon, Yvonne, il est toujours là?
Malheureusement, il est parti. Et il est parti d'une manière que je ne souhaite à personne. Et il avait, parce qu'on faisait du bateau, on avait acheté un bateau de pêche, enfin bref. Donc on faisait du bateau, voilà, malgré qu'on était séparés. Et voilà, pas qu'une idée, il est invité à manger, il va manger. Et puis, chez nous, on a pas mal de champignons. Hein. Et... Ben voilà, quoi. Il a mangé un plat qui avait des champignons et...
Ah bon ? Il s'est empoisonné avec des champignons ?
Voilà, c'est ça. Quand le docteur m'a appelé, parce que le dernier numéro, c'était mon numéro. Et quand ils m'ont appelé, voilà. Et il est décédé comme ça, avec des champignons.
Vous restez avec nous, Yvonne, s'il vous plaît. On va poursuivre notre conversation juste après le flash de Maëlle Laurent.
Oui.
Ne bougez
D'accord.
pas, restez avec nous, s'il vous plaît. Et chers amis, notez que vous pouvez retrouver Au cœur de l'histoire en podcast. Chaque jour, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments, d'événements qui ont marqué.